Et Ahadith, voilà, vraiment, yani, quelqu'un qui est nouveau, ça peut vraiment le tromper. Il peut vraiment se détourner du vrai minhaj pour aller vers l'égarement en croyant qu'il a fait quelque chose de bien. Donc c'est pour cela que on reste comme d'habitude comme ça, avec le raid, Inch'Allah subhanahu wa ta'ala. Tayyib, Akh Muslim, hayakallah. J'espère que tu vas bien, Inch'Allah ta'ala. Est-ce que tu pourrais, Inch'Allah ta'ala, me lire les 5 premières questions, si c'est possible? Alhamdoulilah, je vais bien, barakallahu fik. Si c'est pas possible, donc tu me lis, yani, au moins la première question, et comme ça la deuxième, la troisième, jusqu'à ce que, yani, on soit, Inch'Allah ta'ala, après pour, yani, la série de 5. Tfadhal.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Est-ce que le son est clair, Inch'Allah, cher? Alhamdulillah. Ça fait plaisir de vous retrouver, cher. Inch'Allah que votre état de santé s'est amélioré. Hayakumullah. Non, donc, Inch'Allah, cher, j'ai bien 5 premières questions à vous lire. Donc, la première, Assalamu alaikum. Donc, première question, salam alaykoum, un frère demande, donc je souhaiterais savoir si c'est autorisé de parler au téléphone avec sa future épouse, une fois qu'elle a donné son accord positif. Pour devenir ma femme, en sachant bien sûr que nous n'avons pas encore fait le halal. Jazakumullah khayran cher. Et min fadlikoum, pourrais-je vous parler en PV? C'est assez urgent. Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Qu'Allah vous protège ainsi que votre famille. J'ai commencé le mois du Ramadan au bled et je l'ai fini ici en France. Un imam a dit à mes parents que l'on avait un jour à rattraper car le Maroc a fini en même temps que la France. Et j'aimerais savoir si je dois rattraper ce jour ou pas. Jazakumullah khairan. Donc je pense en fait, cher, quand elle dit le Maroc a fini en même temps que la France, c'est qu'à la base il a commencé après, Allahu alam, un jour après. Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullah. Mon père, rahimahullah, a été rappelé par Allah il y a quelques semaines. Malheureusement, le partage de son héritage ne se fera pas selon les paroles d'Allah, car l'une de mes sœurs a confié le dossier à un notaire. Qui définira les parts selon les lois françaises. À ce titre, je recevrai une part égale à celle de chacun de mes frères. J'aimerais donc savoir que dois-je faire de ce surplus. Je vous rappelle également que mon père avait 2 femmes, donc des enfants de chaque femme. Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je vis seul avec ma mère en France. Mon père étant décédé, je voulais savoir comment faire pour avoir un tuteur pour un mariage. En sachant que je n'ai pas de famille en France, mon oncle paternel vit en Algérie et en ce moment il y a mon oncle maternel, donc je voulais savoir si mon oncle maternel pouvait être considéré comme mon tuteur pour mon mariage, Inch'Allah. Je n'ai pas de frère non plus. Dernière question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Je suis dans une situation difficile et j'aimerais que vous me donniez des conseils, bi'idnillah ta'ala. Voici ma situation. Je suis une sœur de nationalité serbe et je me suis converti à l'islam lors de ma venue en France pour mes études. J'ai dû retourner en Serbie car ma carte de séjour allait expirer. Et le problème, c'est qu'ici, les musulmans sont en grande minorité et il est dangereux d'afficher son islam car l'on risque de se faire agresser. De plus, mes parents ne me laissent pas porter le voile, ils m'obligent à sortir sans, et me menacent de me mettre dehors si je sors avec le voile. Ils ne veulent pas que je retourne en France, il est prévu que je retourne en France pour récupérer mes affaires. Dois-je rester alors en France, étant donné que je n'ai pas d'argent ni de logement? Que me conseillez-vous, cher? Enfin, que me conseillez-vous de faire, cher? Pouvez-vous aussi me faire un rappel, car je sens que ma foi baisse à cause du fait que je ne peux pas pratiquer mon dîn. Qu'Allah vous récompense grandement et vous compte parmi ses rapprochés. Tfadal cher.
طيب لو سمحت pour la question du siyam. نعم la question du siyam. Je n'ai pas compris يعني le Maroc et la France يعني quand elle a dit qu'il y avait un jour en plus. Je n'ai pas compris ça. Est-ce que tu peux m'expliquer un peu de ça?
Naam cheikh, wallahu alam, je pense qu'elle veut dire comme elle a fini donc le Ramadan en France et que le et qu'elle avait débuté au Maroc, c'est-à-dire qu'elle avait pas elle avait pas elle avait pas commencé avec la communauté musulmane de France, c'est-à-dire elle a commencé un jour après nous. Et donc d'après l'imam, de ce que j'ai compris de la question, d'après l'imam, si elle finit donc avec la communauté musulmane de France, c'est-à-dire par exemple s'il y avait 30 jours et qu'elle en a fait 29 en terminant le jeûne ici en France, elle doit faire un jour de plus pour rattraper la communauté musulmane de France. Wallahu alam, moi c'est de cette façon que je comprends. Parce qu'au Maroc, ils avaient commencé un jour après nous. Tfadal cher.
طيب ان شاء الله تعالى لو طون كيل ريكسبليك سي سا طيب دونك سي جو كومبرون بيان مسلم سي جو كومبرون بيان لا سور ا كومونسي او ماروك الا كومونسي مي ان جور ابري فو عفوا ان جور نعم سي سا ان جور ابري لا فرانس c'est-à-dire elle n'a pas jeûné le premier jour lorsque vous avez jeûné vous نعم ensuite quand elle est arrivée en France ça veut dire il y a qu'un jour de moins c'est ça. Non. Donc maintenant, où est son problème? Donc elle va, non, elle va refaire le jour qui lui manque. Non, le jour qui lui manque quand on compare par rapport au Maroc. S'il manque un jour, donc elle fait ce jour, bi'idhnillahi, subhanahu wa ta'ala. Non. Et, pour la première question, mon cher, il faut d'abord prendre le micro.
Non, cher, en fait, alors, on va prendre un exemple, cher. On va prendre un exemple, c'est mieux, Inch'Allah. Par exemple, vous et moi. Vous allez commencer le jeûne le premier du mois. Le premier. Moi, je commence le 2. Donc, on va prendre l'exemple du Maroc. On est au Maroc. Non, ça va pas. Moi, je suis au Maroc. Non, donc, moi, je vais commencer le 2. Vous êtes en France. Et vous commencez donc le premier jour. Moi j'étais au Maroc lorsque vous avez commencé. Je reviens finir mon jeûne donc en France avec vous. Donc vous allez faire 30 jours. Si on prend un mois de 30 jours, vous allez faire un jeûne de 30 jours. Et moi, comme j'ai commencé un jour après vous donc au Maroc, quand je vais revenir en France, à la fin du mois, j'aurai fait donc 29 jours. Et tous les Marocains donc auront fait 29 jours au pays. 29 jours. Par contre, en France, la communauté aura fait 30 jours. Tu dois faire un nombre total de jours de là où tu finis, pas de là où tu commences. C'est-à-dire donc un jour avec les Français. Donc elle doit rattraper un jour. Et vous, ce que vous dites, c'est qu'elle doit donc faire le nombre de jours de la communauté musulmane au Maroc. Donc normalement, donc si on comprend votre raisonnement, cher, c'est qu'elle n'a pas de jour à rattraper. Wallahu alam. Je ne sais pas si ça a été clair, cher. Atfadal, cher.
طيب اعطوني سكوند ان شاء الله تعالى شو كان تشيرشي دو شيرشي كيلك شوز Va tirer la conclusion. Non, vous écoutez, Inch'Allah Ta'ala. après, même toi, musulman, si tu veux, après tu me dis donc, d'après ce que je viens de dire, donc ça sera ainsi. Chaud. C'est Cheikh Ben Othaymine Rahmoullah qui parle. Il parle en arabe, j'essaie de traduire en français à peu près. Si une personne là, va se déplacer d'un pays musulman vers un autre pays musulman et que c'est-à-dire lorsqu'il arrive dans le pays, par exemple, il part du Maroc, il arrive en France. Qu'est-ce qu'il trouve? Il trouve que, par exemple, il va encore jeûner un jour. Alors que dans son pays, il dit, subhanahu wa ta'ala, jeûner avec eux. Et il ne dit pas, dans mon pays, au Maroc, j'ai commencé avec eux, aujourd'hui c'est l'Aïd, donc moi je vais faire l'Aïd aujourd'hui. Non. Il jeûne encore avec le pays là où il est arrivé. Non. Jusqu'à ce que il mange avec eux. Ça y est. Même s'il va jeûner plus d'un jour, c'est-à-dire normalement 30, mais il va jeûner 31, alors qu'il n'y a pas 31 en arabe, en islam, il n'y a pas 31. Il y a 29 et 30 jours, c'est tout. Cheikh a dit, même s'il y a un jour de plus, non, 31 ma'alich, il doit jeûner. Et il a dit, non, ou amma l'axe, quant au contraire, si quelqu'un va se déplacer de son pays vers un autre pays, ou ta'akhara fi thubut al-shahr, non, il a baladin taqaddama fi thubut al-shahr. Maintenant, s'il va dans un pays où, non, yani le mois a été vu auparavant, et classe, cela va manger. Non, il part du Maroc vers la France. Quand il arrive en France, c'est demain par exemple qu'ils vont manger. Alors que dans son pays le Maroc, ils ne vont pas manger. Ils vont manger dans 2 jours, c'est l'Aïd. Mais en France, c'est demain l'Aïd. Qu'est-ce qu'il va faire? Est-ce qu'il va dire je vais jeûner demain? Parce que mon pays d'origine jeûne, il va dire je vais manger avec ceux-là. Fa'innahu yuftir ma'ahum. Il mange avec le pays où il est arrivé. Dans lequel il est arrivé. Et il va rattraper ce qu'il a, ce qu'il n'a pas fait comme Ramadan. 28 yomen, s'il a, les 28 yomen, si c'est le 28e jour aujourd'hui, lorsqu'il va manger, si c'est le 28e jour, il doit quoi? Il doit jeûner 2 jours. Non. Si, c'est quoi? Si le mois est complet dans les 2 pays. Mais si le mois est seulement 29 jours, que ce soit au Maroc ou que ce soit en France, dans ce cas, il ne doit rattraper qu'un seul jour. Il ne doit rattraper qu'un seul jour. Voilà, inshallah ta'ala, la fête toi.
Donc, Allahu alam cher. Là, donc, je comprends qu'elle doit rattraper donc un jour. Parce que le Maroc avait commencé un jour après nous. Elle était au Maroc, cher, au moment du début du jeûne. Elle était au Maroc. Maintenant, en France, on avait commencé le jeûne un jour avant eux. Et pendant le mois de Ramadan, elle est revenue en France. C'est-à-dire, elle a Eid avec nous. Elle a fait le jour de l'Eid avec nous. Ça veut dire qu'elle a fait donc un jour de moins que nous en France. Donc je pense qu'elle doit compléter donc ce jeûne avec un jour pour faire comme nous 30. Ah, donc là je comprends comme ça. Ah, tfadal cher.
Maintenant pour la deuxième question. Non, plutôt la première. La personne qui avait dit que elle est d'accord avec cette. alors qu'elle est devenue sa femme. Ils ont fait ce qu'on appelle Fatiha. Même après cela, ils ne parlent que vraiment quand c'est nécessaire. Et ce n'est pas pour discuter, pour rire, pour plaisanter, pour faire des rêves. Non. C'est juste pour les choses nécessaires. C'est juste pour fixer la date du mariage ou je ne sais pas quoi. Non. C'est comme ça que je dis, cher Fawzan. Alors, qu'en est-il maintenant s'il n'y a pas d'aqd shar'i? Tant qu'il n'y a pas de aqd shar'i, ils sont des étrangers l'un pour l'autre. Ils sont des étrangers l'un pour l'autre. Toutefois, s'il veut lui parler au téléphone en présence de son mahram, ça c'est autre chose. Devant son mahram. C'est comme s'il la rencontre dans la rue et parle avec elle devant son frère ou là son père. Ça c'est autre chose. Non. Pour la troisième question qui a parlé d'héritage d'après les lois françaises. Et que si c'est une femme, une sœur, donc on va lui donner le double. Alors qu'en islam, elle ne prend que la moitié. Dans ce cas, qu'est-ce qu'elle fait? Hein? Elle avertit les autres, c'est-à-dire ses frères. Bien sûr, ils sont musulmans. Pour lui dire que l'islam ne m'a donné rien, que la moitié. Donc cette moitié, je vous la rends. Sauf si, eux, ils croient, ils se rétractent et disent, yani, nous, ça ne fait rien, Allah ismah. Nous, yani, on donne cette part fi sabilillah. Mais l'essentiel, c'est qu'elles disent, voilà, moi je n'ai le droit que de la moitié. Donc je rends la moitié aux héritiers. Et maintenant, si les héritiers sont d'accord pour qu'elles prennent cette moitié, fi sabilillah, yani, ils donnent fi sabilillah, ils sont libres. Pour la quatrième question, qui a dit que elle n'avait pas de tuteur et que le seul tuteur, oncle paternel, se trouvait en Algérie. Et qu'en France, elle avait un oncle maternel. Vous savez que l'oncle maternel ne peut pas être son tuteur. Donc, comment qu'on fait ici? C'est très simple. L'oncle paternel qui se trouve en Algérie va parler au téléphone, alhamdoulilah, maintenant qu'il n'a pas le téléphone, va parler au téléphone avec l'oncle maternel qui est en France et lui dire, je te donne la, c'est pas comment qu'on dit ça, yani, la tutelle ou le tutorat ou quelque chose comme ça, et je te délègue à ma place. Tu fais l'acte à ma place. Bon, je suis absent, mais je t'ai donné le feu vert. Et, alhamdoulilah, la mouchkila est terminée. Naam. Pour la serbe, la reconvertie, naam, d'abord, alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a guidé, et, yani, il faut faire beaucoup de doigts, que Allah subhanahu wa ta'ala t'ait choisi et a yani, sauvé ta peau bi'idnillah subhanahu wa ta'ala en faisant de toi une musulmane. Alhamdulillah, alhamdulillah. Et ensuite, autre chose, maintenant, si tu es ramené à vivre en Serbie et que vraiment c'est difficile yani, de montrer son islam, alors dans ce cas, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dans ce cas, la sœur va yani, craindre Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'elle peut. Tant qu'elle ne peut pas, Allah subhanahu wa ta'ala ne met pas, yani, ne donne pas une charge à une personne plus qu'elle n'en peut supporter. Plus qu'elle n'en peut supporter. Mais comparé à la Serbie, donc la France serait beaucoup mieux pour toi. Donc si inshallah ta'ala, il y a des moyens, comment faire pour vivre en France le temps de quitter aussi la France pour un pays musulman, c'est auquel est Allah subhanahu wa ta'ala, s'il y a les moyens. Mais c'est comme si j'ai entendu dire que tu n'avais pas les moyens ou tu n'avais pas où, etc. S'il y a maintenant une sœur qui, fi sabilillah, voudrait t'héberger jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala te fasse une solution, celle-là c'est que vraiment Allah ta'ala lui veut du bien. Pour qu'Allah Ta'ala ait choisi une personne pour héberger une autre personne qui, si elle n'est pas hébergée, elle risque de sortir de l'islam dans son pays. Alors qu'Allah Ta'ala a dit « Yuhibbuna min hajara ilayhim » en faisant les éloges des sahaba. Il a dit « Ils aiment ceux qui font la hijra vers eux. » Alors toi, Orti, si Allah Ta'ala t'ouvre ton cœur et tu peux inviter cette sœur et l'aider à ce qu'elle fasse la hijra chez toi jusqu'à ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse une solution, C'est que vraiment Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné un statut qu'il n'a pas donné à toutes les autres. Tu dois remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Normalement, si on avait vraiment l'iman, etc., on se serait disputé qui prendrait cette sœur. C'est comme ça si on était au temps des sahaba. On va se disputer entre nous avec des coups de poing et des coups de pied pour voir qui va prendre cette personne et la faire loger chez elle. Mais de nos jours, vous savez que l'iman est vraiment baïf et que les véridiques sont vraiment rares. Mais il y en a toujours. Mais maintenant, dans le cas où tu serais forcé à rester en Serbie, « La yukallifullahu nafsan illa wus'aha » Si tu dois sortir dans la rue, tu essaies au maximum de te couvrir comme tu peux. Même en mettant par exemple, n'importe quoi sur la tête, en mettant un foulard sur le cou, en s'habillant, avec quelque chose de long, une robe qui serait longue vraiment, et comme ça, pour cacher son islam, pour ne pas être quoi? Pour ne pas être persécuté, le temps que Allah subhanahu wa ta'ala fasse une solution. Voilà, inshallah ta'ala, pour les cinq premières questions. Allah subhanahu wa ta'ala alam. Tfaddal.
Non, cher, donc je passe aux cinq prochaines. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Tout d'abord, je tenais à vous dire que vous nous avez beaucoup manqué et nous sommes très contents de vous retrouver. Alhamdulillah. Voici ma question. Une sœur s'est fiancée récemment. Son prétendant a demandé sa main à son tuteur et son tuteur la lui a accordée en présence de plus de deux témoins. Ils ont par la suite fait une cérémonie de fiançailles, mais le problème est que son tuteur et toute la famille de la sœur considèrent qu'il ne s'agit que de fiançailles et pas encore du vrai mariage. Car pour eux, le vrai mariage sera dans 2 ans lorsqu'ils emménageront ensemble. La sœur se demande donc si elle est mariée devant Allah, malgré le fait que son tuteur, lorsqu'il a accepté de donner sa main à son prétendant, l'a fait en ayant comme intention que c'était pour des fiançailles. Je précise qu'ils ont tout de même appelé la cérémonie des fiançailles le halal, et qu'ils y ont lu le Fatiha, bien que ce soit une bid'a. Qu'Allah vous facilite et vous récompense grandement. Question suivante. Salam alaikum. Est-ce que ma sœur et tous ceux qui sont musulmans de naissance et qui croient en Allah Ta'ala et son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui ne font pas la salat sont des mécréants? Barakallahu fikum. Question suivante. Salam alaikum. Voilà, je veux savoir si une sœur qui ouvre un salon et diffuse que des doros ou du Coran, bien sûr, les cours sont de frères, sont des prêcheurs du minhaj, la sœur met les raids et il n'y a personne qui parle dans le salon. Est-ce qu'elle peut ouvrir ce genre de salon? Question suivante. Salam alaikum. Une personne a juré de faire une chose et ne l'a pas faite. Que doit-elle faire? Donner à manger à des pauvres ou jeûner 3 jours? Et si elle doit nourrir 60 pauvres, peut-elle nourrir un seul pauvre 60 jours? Donc je pense que ça fait 5 chers. Ah, il reste une question. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hafizakum Allah. Une sœur a jeûné depuis qu'elle est devenue pubère, c'est-à-dire 12 ans. Mais elle n'a jamais rattrapé ses jeûnes manqués durant le mois de Ramadan, excepté depuis qu'elle a commencé la prière à l'âge de 20 ans. Elle demande comment doit-elle faire. Tfadal, cher.
Afwan, la cinquième question, il y avait des coupures, je n'ai pas bien entendu. Nam, la cinquième question, il y avait des coupures, je n'ai pas bien entendu. Et la première question, est-ce qu'il y avait les deux témoins pendant les fiançailles? Est-ce qu'il y avait deux témoins?
Nam, cher, elle a dit plus que deux témoins. Il y en avait plus encore. Et pour la dernière question, une sœur a jeûné depuis qu'elle est devenue pubère, c'est-à-dire depuis l'âge de 12 ans. Mais elle n'a jamais rattrapé ses jeûnes manqués durant le mois de Ramadan, excepté depuis qu'elle a commencé la prière à l'âge de 20 ans. Elle demande comment doit-elle faire? Tfadal cher.
طيب بسم الله الرحمن الرحيم. Tout à l'heure j'ai oublié car la sœur de Serbie m'avait demandé de faire un petit rappel en disant que sa foi était faible ou quelque chose comme ça. J'avais oublié de faire un petit rappel. Donc je dis, je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de m'aider, je dis toute personne, inshallah ta'ala, doit savoir que elle ne vit cette vie que pour mourir. On ne vit que pour mourir. On ne meurt que pour vivre. C'est-à-dire que maintenant, il n'y a pas une personne qui va échapper à la mort. Et quand tu vas mourir, c'est pourquoi? C'est pour vivre la vraie vie. Car cette vie doit yani, se terminer. Que tu vives 80 ans, 100 ans, il y a le jour où tu dois mourir, tout le monde doit mourir. Ensuite, après la mort, il y a la vie éternelle. La vie éternelle. Que ce soit dans le paradis, que Allah subhanahu wa ta'ala nous fasse de ces gens, ou que ce soit en enfer, que Allah subhanahu wa ta'ala nous préserve cet enfer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a créé l'âme, mon âme, la tienne, celle de X, de Y, toutes les âmes, à partir du moment où il a créé l'âme, elle est éternelle. Jamais elle ne croit, elle ne finira cette âme. Elle vivra éternellement. Reste que, en créant cette âme, il a créé pour toute âme un corps. Et il a mis, par exemple, mon âme dans mon corps, la deuxième âme dans le corps de X, de Y, qui comme ça, elle est bloquée, coincée, entre nos deux flancs, jusqu'à ce que vienne l'ange de la mort pour la prendre. C'est quand on va mourir, et ensuite, elle sera libérée pour de bon, et rentrera de nouveau dans un nouveau corps, qui est bien sûr le corps de la personne qui a été vivante dans cette vie. Sauf que, il fera 30 mètres il sera grand de 30 mètres, et bien sûr, il y a certaines choses qui vont changer, mais ce sera la même personne. Et ensuite, comme j'ai dit, il y a ou bien c'est le paradis éternellement, ou bien c'est l'enfer éternellement. Donc la personne qui a vécu dans cette vie en adorant Allah subhanahu wa ta'ala, vraiment cette personne là sera la personne la plus heureuse, car Allah ta'ala ne nous a créé que pour l'adorer, comme il a dit dans le Coran, ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Je n'ai créé les djinns et les ins, les humains, c'est-à-dire seulement pour qu'ils m'adorent. Or je dois faire donc tous mes efforts, tout mon possible, pour m'accrocher jusqu'à ce que je rencontre Allah subhanahu wa ta'ala ravi de moi. Maintenant, ça ne veut pas dire que je ne vais pas me tromper. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des fautes. Ça ne veut pas dire que je ne vais pas faire des péchés. Mais l'essentiel, c'est que j'essaie au maximum de ne pas en faire. Et que, à chaque fois que je fais un péché, je reviens vers Allah subhanahu wa ta'ala en me repentant. Car, il y a, comme a dit le prophète Hassan, il a dit, toutes les personnes sont des pécheuses, sont des fautes. Mais, les meilleurs des pécheurs, ce sont ceux qui se repentent vers Allah subhanahu wa ta'ala. Donc attention, la vie est très courte. Demain, tu vas dire, oh, subhanallah, j'ai déjà 25 ans. Oh, j'ai déjà 35, 45. Ensuite, ça va marcher par 10. À partir de 35, à peu près 40, ça va marcher par 10. À chaque fois, tu dis, subhanallah, déjà 40, 50, 60, et ça va passer très vite. Et, tu vas rencontrer Allah subhanahu wa ta'ala, et peut-être tu n'auras rien avec toi. Ou alors très peu de choses. C'est pour ça que, il ne faut pas fléchir, mais il faut toujours, inshallah ta'ala, faire des doigts à Allah subhanahu wa ta'ala et demander de nous aider. Et chaque personne qui est sincère avec Allah, et qui demande de lui aider, Allah subhanahu wa ta'ala l'aide et lui facilite Yani le chemin qui fera de sorte pour que tu rencontres Allah subhanahu wa ta'ala ravi de toi. Et la personne qui ne veut pas de ça, qui veut vivre seulement cette vie, et s'en fout de l'au-delà, ne fait rien pour son au-delà, celle-là, Allah subhanahu wa ta'ala se détourne d'elle. Et la laisse avec ses shayatines. Ces shayatines qui vont quoi la détourner et la noyer jusqu'à ce qu'elle devienne non seulement aveugle, mais elle devienne sous. Elle ne sait pas du tout ce qui se passe jusqu'à ce qu'elle se réveille dans la tombe ou la yadou billah. Donc dites-vous bien que la dunya est très courte. Malgré que tu vis 100 ans ou 150 ans, c'est très court. Et profite, inshallah ta'ala, au maximum de quoi d'adorer Allah subhanahu wa ta'ala et de faire tout ce qui le ravit bi'idhn azzawajal. Et ensuite, sache que, en te détournant de l'islam, jamais une personne ne sera heureuse. Vous ment, celui qui n'est pas musulman et qui vous dit « je suis heureux ». Il n'est heureux que certains moments. Le moment où il boit l'alcool, le moment où il fait la zina, le moment où il joue à je ne sais pas quoi. Mais après, quand cette chose se termine, c'est la personne la plus malheureuse. Surtout dans son cœur, ce qui se passe dans son cœur, les chagrins qu'elle a, les chagrins, les tristesses, le cœur noir. C'est pour ça que la plupart se suicident. Si elle était heureuse, pourquoi elle s'est suicidée alors? Il n'y a pas une personne heureuse qui se suicide. Pour adorer leur nefs. Ils s'adorent eux. Ils adorent leur corps. Ils adorent leur passion. Ils adorent leur tentation. Ils adorent le shaitan. Alors que toi, alhamdoulilah, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu es certain qu'il y a un paradis qui attend. Un paradis dans lequel il y a tout ce que c'est possible d'imaginer. Tout ce qui est possible et imaginable. Il y a même l'inimaginable. Il y a même les choses que tu ne peux pas imaginer. Elles sont là-bas dans le paradis qui sont en train d'attendre le musulman. Donc, chère sœur, remercie Allah subhanahu wa ta'ala de t'avoir aidé. Accroche-toi bien. Fais beaucoup de doigts à Allah subhanahu wa ta'ala. Demande-lui de t'aider. Il t'aidera. Il l'a promis. Il a promis que quiconque aime son dîn, aime le chemin qui mène à lui, aime le rencontrer, ravi de lui, Allah subhanahu wa ta'ala lui a promis qu'il va lui faciliter la chose. Comme il a dit dans le Coran, فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُ لَهُ quoi الْيُسْرَى سَنُيَسِّرُ on va lui faciliter الْحُسْنَى subhanallah al-azim. Alors que l'autre, qu'est-ce qu'il va lui faire? Ça, نُيَسِّرُ لَهُ الْعُسْرَى. L'autre, il lui facilite quoi? Il lui facilite l'autre chemin, le chemin qui mène en enfer. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala nous aider et nous faire mourir musulmans. Voyez. Maintenant, on va passer à la première question qui a parlé de la sœur, qui a parlé des fiançailles, etc. Je dis, toute personne qui, je parle du tuteur, toute personne qui est tuteur d'une femme et qui dit devant deux témoins, dit devant deux témoins, je donne celle-là, c'est-à-dire celle sur laquelle j'ai le tutorat, je donne ma fille, ma soeur, je ne sais pas qui, à X. Et les deux témoins entendent et savent que la prétendante a dit X ou la Y est consentante. Non. Alors le mariage a eu lieu. Alors elle est mariée chez Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr à condition qu'ils ont dans l'intention de donner une dot. Même s'ils ne la donnent pas maintenant, même s'ils ne la citent pas maintenant, mais dans le cœur, ils ont dans l'intention de donner une dot. Alors dans ce cas, elle est devenue sa femme. Donc moi je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. pendant ses fiançailles, mais si la sœur est consentante et que son tuteur a dit devant deux témoins, je vous prends en témoin que j'ai donné X, ça veut dire que le mariage a eu lieu, c'est un acte shar'i, même s'ils ont lu la fête et haki une bida, ça ne fait rien. L'essentiel, l'acte est shar'i, bidna ta'ala, et elle est sa femme, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. Naam. Pour la deuxième question, la personne qui a dit, mes sœurs ne font pas la salat, etc. Est-ce que maintenant, elles sont, je dois les considérer comme musulmanes ou comme mécréantes, alors qu'elles croient en Dieu, etc. Naam. Je préfère l'avis du milieu qui dit que toute personne qui dit Shadoun la ilallah ou Shadoun Muhammadan Abdu wa Rasulo, qui ne fait pas la prière mais la reconnaît, dit je reconnais qu'il y a la prière et que yani, si je ne la fais pas c'est seulement par paresse, mais Inch'Allah ta'ala j'ai dans l'envie de la faire, etc. Et ensuite, cette personne, on voit par exemple qu'elle jeûne. Quand le jeûne arrive, elle jeûne. Naam. Cette personne-là, tant qu'elle n'est pas morte, on doit la considérer comme musulmane, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, d'après l'avis du milieu. Naam. Et l'avis aussi de Cheikh Islam, al-Rahmatullah, et l'avis des quatre grands imams. L'avis des quatre grands imams. Bien sûr, il y a l'avis qui dit que, dans tous les cas, des mécréantes, naam, c'est un avis. Non. Moi je ne suis pas de cet avis, je suis de l'avis du milieu. Non. Donc elle reconnaît non, qu'il n'y a qu'Allah subhanahu wa ta'ala qui mérite l'adoration, que Muhammad c'est son prophète, que Jésus c'est seulement Isa alayhi salam, c'est seulement un nabi, c'est pas le fils de Dieu, etc. comme disent les chrétiens, et que quand c'est le ramadan par exemple elle jeûne et que elle fait comme nous, elle, de temps en temps elle donne une sadaqa, elle parle en bien du prophète alayhi salam, elle parle en bien de l'enfer, du paradis, etc. Et qu'elle n'est pas encore morte, on la considère comme musulmane. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Naam. Pour la personne qui a dit que si on pouvait faire ouvrir un salon et donner des raids à tout le monde, ensuite, et aller faire passer des cassettes de gens qui sont sur le minhaj, etc. Non, pourquoi pas? Non, c'est permis. Pourquoi ce serait interdit? Puisque, Inch'Allah Ta'ala, le but, c'est de faire écouter aux gens des doros qui yani, sont utiles, bi'idnillah, subhanahu wa ta'ala. Non. Je dis, non seulement c'est possible, mais Inch'Allah Ta'ala, que cette personne, si elle fait ça avec une bonne intention, elle a, Inch'Allah Ta'ala, quoi? Elle a des hasanat, bi'idnillah, ta'ala. Pour la personne qui a juré de faire une chose et ne l'a pas faite. Maintenant, si elle ne peut plus la faire, qu'est-ce qu'elle doit faire alors? Alors, elle doit yani, faire nourrir 10 pauvres, bi'idnillah subhanahu wa ta'ala, ou bien les faire habiller. Naam. Ou bien nourrir 10 pauvres, 10. Naam. Ou bien les faire habiller. Si elle ne peut pas, elle va jeûner 3 jours bi'idnillah ta'ala. Et ce n'est pas obligé que ça soit consécutif. Al-Muhim, si elle n'a pas, les moyens de nourrir 10 pauvres ou de les faire habiller, alors elle doit jeûner 3 jours bi'idnillah ta'ala. Les pauvres qu'elle doit nourrir, ce n'est pas un seul pauvre 10 fois. Non. Elle doit chercher 10 personnes différentes. Sauf si elle est dans un endroit où il n'y a qu'un seul pauvre, ce qui serait un peu impensable, mais supposons. Sinon, elle doit choisir 10 personnes différentes, bi'idnillah ta'ala. Et la cinquième question, non, je l'ai oubliée. Je l'ai mal notée ici. J'ai écrit seulement jeûner. J'ai écrit jeûner. Non, c'est quoi la cinquième question?
Donc je le répète, cher, une sœur a jeûné depuis qu'elle est devenue pubère, c'est-à-dire à l'âge de 12 ans. mais elle n'a jamais rattrapé ses jeûnes manqués durant le mois de Ramadan, excepté depuis qu'elle a commencé la prière à l'âge de 20 ans. Elle demande comment doit-elle faire. Tfadal cher.
D'accord. Les savants disent, dans le cas où elle peut rattraper ce qui s'est yani les jours passés, qu'est-ce qu'elle fait? Ils ont dit, elle fait un calcul approximatif. Taqullah, tu n'es pas obligé yani, que son calcul soit juste, mais approximatif. Elle dit par exemple, chaque année, par exemple, elle calcule, bon, pendant un mois. Pendant un mois, par exemple, elle dit, par exemple, les jours où je ne jeûne pas, par exemple, c'est 6 jours. 6 jours par mois, par exemple, ou bien 7 jours. C'est par mois. Donc, il y a un mois par an. Donc, chaque année, par exemple, c'est 7 jours. Donc, ça fait 10 ans, par exemple, qu'elle n'a pas jeûné. Donc, c'est à peu près 70 jours. Ou alors 60. Et comme ça. Et ça, on dit, elle fait un calcul approximatif. Approximatif, nam, et elle jeûne sans qu'elle soit obligée de jeûner, yani, comment on dit ça, yani, sans coupure, nam. Elle peut jeûner aujourd'hui un jour, dans une semaine un autre jour, dans un mois un autre jour, et comme ça. C'est pas obligé que les jours se suivent. Ça te va pour les autres questions.
Non, donc les questions suivantes. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Inch'Allah, je voudrais savoir, est-ce qu'une femme peut rester avec les amis de son mari, sachant qu'il est avec elle? Et aussi, je voulais savoir si une sœur. Afwan, c'est une seule question par personne. Il y en a beaucoup qui lèvent la main, inchallah. Non, trois questions en une, c'est pas possible. Donc, barakallahu fikoum, wa jazakumullahu khairan. Question suivante. Salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Barakatuh ya Cheikhana. Voici ma question. Si une sœur fait une muqabala avec un frère, mais qu'elle n'est pas encore sûre de sa réponse, est-il permis qu'elle fasse une muqabala avec un autre frère avant de donner sa réponse au premier? Jazakumullah khairan. Question suivante. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Ma question est la suivante. Comment faire la différence entre une épreuve d'Allah Azawajal et une punition d'Allah? Barakallahu fikoum. Question suivante. Assalamu alaikum, cher. Je n'arrive pas à concevoir le fait que de grands imams de l'islam comme Ibn Hajar et An-Nawawi étaient Ash'ari et se proclamaient de cette croyance alors qu'ils avaient accès aux livres des savants de la Sunna. Pouvez-vous nous expliquer la thèse qui dit que c'est dû au fait qu'ils aient vécu dans une ambiance où leurs savants étaient Ash'ari? Et comment concilier le fait que certains savants disent qu'ils ne sont pas Ash'ari alors qu'eux-mêmes Ibn Hajar et d'autres se qualifiaient ainsi. Dernière question. Salam alaikum. Cher, comment allez-vous? Car ça fait longtemps qu'on ne vous a pas vu. Une sœur demande, elle part au Hajj avec son père et elle, là-bas, égorgera un mouton. Qu'en est-il de son mari qui est en France? Doit-il égorger? Où le sacrifice de la sœur suffit pour l'aide. Jazakumullah khairan. Tfadal cher.
Je commence par la cinquième, inshallah ta'ala. Quand elle va égorger là-bas un mouton, c'est pour le hajj, le hadi. Ça n'a rien à voir avec le mouton que devra égorger son mari là-bas en France. Non. Donc, ça n'a rien à voir avec le mouton que devra égorger son mari en France, bien sûr, s'il a les moyens. Ça y est. Pour la première question, il est possible à une femme de s'asseoir, non, avec les amis de son mari en présence de son mari. En présence de son mari, si elle est avec la même tenue avec laquelle on la voit quand elle est dans la rue. Et si elle sait que, dans cette présence, c'est-à-dire, il n'y a pas de suspicion. Non, il n'y a suspicion ni d'homme vicieux, ni ceci, ni cela. Non. Pour la muqabala avec le frère, ensuite voir un deuxième, non, ensuite rendre la réponse au premier. Je ne sais pas, non, je ne connais pas la réponse de cette question. Je ne connais pas la réponse de cette question. Mais il serait, Allah Ta'ala alam, il serait prudent, non, de donner d'abord la réponse, ensuite de passer à l'autre. Il serait prudent, Allah alam. Mais je ne suis pas très sûr. Je ne suis pas très sûr, très sûr, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Comment qu'on fait la différence entre une épreuve et une punition? En principe, il n'y a pas quelque chose de vraiment scientifique, de vraiment clair, qui dise que s'il y a ceci, c'est une punition, s'il y a cela, c'est une épreuve. Mais les savants ont dit, en général, on voit si la personne est du genre, personne pieuse, personne, mashallah, qui applique, etc., on va dire c'est une épreuve. Mais si la personne est une personne connue pour être une personne perverse, une personne qui n'applique pas, une personne elle est vraiment loin du dîn, ils ont dit dans ce cas, on dit c'est une punition. C'est comme ça que répondent les savants, bi'idhnillah ta'ala. Sinon, c'est très difficile de savoir, hein, est-ce une épreuve ou une punition. C'est pour ça que à chaque fois qu'on a, il y a quelque chose de, il y a qui est amer, qui vient d'Allah subhanahu wa ta'ala, du destin, et qui est amer, on doit vite voir, est-ce que, yani, se rappeler, est-ce qu'on a fait, yani, qu'est-ce qu'on vient de faire tout dernièrement. On essaie de se rappeler quel est le péché qu'on vient de faire. Non. Pour revenir vers Allah subhanahu wa ta'ala, pour que, yani, ce destin qui est amer, yani, soit levé et se transforme en destin sucré, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Non. Pour la quatrième question, comment ça se fait que Nawawi et Ibn Hajj étaient Ash'arites, etc., etc. D'abord, comme disent les savants, il faut faire la différence, Inch'Allah Ta'ala, entre l'imam Nawawi, Rahimahullah, et l'imam Ibn Hajj, Rahimahullah. Non. L'imam Nawawi était Ash'ari, et l'imam Ibn Hajj avait des Ash'ariyettes. Il y a une différence entre être ash'ari et une différence entre avoir des ash'ariyettes. La différence entre les deux, c'est que Nawawi, Naam, yani défendait par exemple le minhaj des ash'arites, alors que Ibn Hajj, rahimahullah, c'est-à-dire, dans certains cas, il parlait comme les ash'arites et dans d'autres, il parlait comme des salafs. Il prenait la défense des salafs. C'est pour ça qu'on dit il a des ash'arites. Il a des points où il a concordé avec les ash'arites. Mais il n'est pas sur, à 100% ash'arites. Maintenant, comment se fait-il que de grands savants pareils soient ou bien ash'arites ou bien influencés par l'ash'aria? Il faut dire que pendant que ces deux savants étaient vivants, ils n'ont pas, yani, connu la vérité et ont dit, je m'en détourne. Faire la différence. Non, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont dire maintenant, et pourquoi par exemple, Nawawi était Ash'ari, pourquoi vous lisez Riyad Salihin, vous lisez son livre, le Majmou, vous lisez tel et tel livre, pourquoi alors qu'il était Ash'ari? Ibn Hajj, pourquoi vous lisez Fath al-Bari? Alors que même à l'intérieur, il y a du ash'arisme. Non. Donc la réponse, on va dire, Hado, ces deux-là, lorsqu'ils étaient vivants, non, pour eux, c'était ça le haq. C'était le haq qu'ils défendaient, qu'ils croyaient que c'était ce que, yani, c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala a fait descendre dans son Coran, est ce que le prophète sallam a propagé dans sa sunna. Ce n'est pas comme les Ash'aris d'aujourd'hui, il sait que il est dans le faux, il sait que le vrai minhaj et c'est le vrai avis, c'est l'avis de X ou de Y, il ne veut pas le suivre. Il veut pas le suivre. Non. Et comme a dit celui qui a posé la question, ces deux savants, bien sûr, ont vécu dans une période où vraiment, yani, l'aqid al-ash'ariya était vraiment répandu partout. Partout, vraiment répandu. Et vraiment, ceux qui ont été yani, préservés sont eux que Allah subhanahu wa ta'ala yani, leur a donné une faveur particulière. Non. C'est pour ça que vous avez remarqué que les savants d'aujourd'hui, tous, je dis tous les savants des salafs, non, disent que Nawawi rahimahullah et Ibn Hajj rahimahullah sont de grands savants. Des grands savants. Pourtant, dans la aqidah, ils ne sont pas dans la aqidah des salafs, mais de grands savants, et ils leur trouvent des excuses. Et toute personne qui, de nos jours, dit par exemple, Nawawi et Ibn Hajj, il ne faut pas lire leurs livres, par exemple. Il ne faut pas, yani, il faut pas enseigner leurs livres. Il ne faut pas ceci. Hein? Ceux-là font partie d'un minhaj qui s'appelle Al-Haddadiya. Haddadi, on dit X, c'est un Haddadi. Et Y, la sœur, c'est une Haddadiya. C'est-à-dire des personnes qui suivent un Égyptien qui s'appelle Mohamed Al-Haddad. Je crois qu'il est mort à celui. Mais c'est le premier qui a dit que on ne doit pas suivre Nawawi ibn Hajj, on doit brûler leurs livres, etc. Et bien sûr, il a des adeptes présents, vivants jusqu'à de nos jours. Ils disent il ne faut pas lire Nawawi, il ne faut pas lire ibn Hajj. Nous, qu'est-ce qu'on dit? On dit ceux-là, ce sont deux grands savants, bi'idhnillah ta'ala, ils sont excusés. Et bien sûr, on ne va pas les suivre dans leurs erreurs. On montre que Nawawi, quand il a dit telle et telle chose, on ne le suit pas. Non, il a dit faux, il s'est trompé. Il aura, inshallah ta'ala, une seule récompense. Ibn Hajj, quand il a dit telle et telle chose, dans l'aqidah, je ne le suis pas. Il a dit une chose fausse, c'est un mujtahid, il aura une récompense, c'est tout. Non. Mais ça ne veut pas dire que les choses, les autres choses, qui sont justes et qui sont vraies, ça veut dire que je vais les délaisser, comme a dit le Haddadi. Non. Voilà, inshallah ta'ala, pour ces 5 questions. Tafadhal.
Non, est-ce que vous avez du son, Inch'Allah? Alhamdulillah. Donc je relis la question, Inch'Allah. Salam alaikum, cher, lorsqu'on lève les mains pour faire dua, est-ce que l'on doit commencer par faire les éloges d'Allah Ta'ala et faire la salat sur le prophète, alayhi salat wa salam, ou doit-on procéder de la manière en invoquant en faveur des personnes absentes? Qu'Allah Ta'ala vous accorde une bonne fin. Cher, cette question, moi personnellement, je ne l'ai pas très, très bien saisie. Khair, Inch'Allah. Je passe à la question suivante. Salam alaikum, Shir. Pouvez-vous éclairer des frères en ce qui concerne l'âge de la bête à sacrifier pour l'Aïd, 6 mois, 1 an ou plus? Et est-il contraire à la sunna d'égorger une femelle? Barakallahu fekoum. Assalamu alaikum wa rahmatullah, cher. Barakallahu fekoum pour tous les efforts que vous faites pour la da'wa salafia. Ma question est, mon père a souscrit une assurance avant ma conversion à l'islam. Et cette assurance me donne droit à une somme d'argent à ma majorité. Ai-je droit de la prendre si je me suis converti après ma majorité? Question suivante. Salam alaykoum, Cheikh Hana, hafizakum Allah. Dans la ville où nous sommes, il y a beaucoup de groupes différents dans l'islam. L'établir ont leur mosquée. Nous sommes quelques frères qui suivent le minhaj éparpillés dans les différentes mosquées de cette ville. Pouvons-nous nous regrouper sous la forme d'une association avec un président des statuts, etc., pour faire une mosquée et faire la da'wa dans cette ville? Où est-il préférable de fréquenter nos différentes mosquées? Hayakumullah. Dernière question. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Je suis musulman de naissance, alhamdulillah. Jusqu'à maintenant, j'ai toujours fait les muqabala en présence de mon mahram, c'est-à-dire mon frère. Cependant, il est souvent occupé et je n'ose pas le déranger à chaque fois pour faire une muqabala. Serait-il autorisé que je fasse la muqabala sans mon mahram, mais en présence de la sœur du prétendant dans un endroit public? Puis si l'on se correspond, le frère et moi, de refaire une muqabala avec cette fois-ci mon mahram, c'est-à-dire mon frère. Ah, tfadal, cher.
Avant de te répondre, Inch'Allah Ta'ala, avant de te répondre, chauffe la quatrième question. J'ai compris que les frères des salafs sont dispersés, etc. Mais c'était quoi la question? J'ai entendu, pouvons-nous? C'est tout. Pouvons-nous quoi? C'est pour la quatrième question. Pour la troisième, l'assurance, je n'ai pas compris, hein, qu'est-ce qu'elle voulait dire en majorité, etc. Non, l'assurance en majorité, j'ai pas compris. Inch'Allah Ta'ala, tu peux m'expliquer. Tfadlak.
Naam, cher. Donc la quatrième, je vais la relire, Inch'Allah. Donc le frère dit qu'il y a plusieurs groupes, il y en a plusieurs sectes dans sa ville, là où il habite, et il demande, nous sommes quelques frères qui suivons le minhaj, éparpillés dans les différentes mosquées de cette ville. Et il demande, pouvons-nous nous regrouper sous la forme d'une association avec un président, etc. Donc avec tout ce que ça comprend une association, pour faire une mosquée et faire la da'wa dans cette ville. Ou alors est-il préférable de fréquenter nos différentes mosquées? La question du frère sur l'assurance. Donc il dit, mon père a souscrit une assurance avant ma conversion à l'islam. Et cette assurance me donne droit à une somme d'argent à ma majorité. Et il dit, ai-je le droit de la prendre si je me suis converti après ma majorité? C'est-à-dire normalement, cher à sa majorité, donc lorsqu'il a eu 18 ans, il pouvait donc prétendre avoir je sais pas, ce droit que lui donne l'assurance. Lui, je pense qu'il ne l'a pas pris pour l'instant. Donc je ne sais pas à quel âge il a actuellement. Admettons, il a 20 ans. Il demande, malgré qu'il s'est converti, donc après, par exemple, il s'est converti à l'âge de 20 ans et que cette somme, il pouvait la prendre à l'âge de 18 ans, est-ce qu'il a le droit de la toucher ou alors il doit la laisser à l'assurance? Voilà, c'est ça le sens de sa question. Car il était mécréant au moment où il avait droit de prendre cette somme. Atfad al-Shir.
Pour la première question, Inch'Allah Ta'ala. Il est de la sunna, Inch'Allah Ta'ala, quand on veut faire des doigts, et on va lever les mains, et demain, Subhanahu wa Ta'ala, pour faire des doigts, de remercier Allah Subhanahu wa Ta'ala d'abord, de lui faire ses éloges, et ensuite, de faire la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Non. Ensuite, de faire des doigts, bi'idhnillahi Subhanahu wa Ta'ala. Ce n'est pas une condition nécessaire. Même s'il y a un hadith authentique qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait dit que si une personne fait des doigts sans qu'elle fasse la prière sur moi, c'est-à-dire que c'est comme si c'était pas scellé. Non. Mais inshallah ta'ala, si ça rentre dans les adab, ça rentre dans les adab des doigts. Pourquoi? Parce qu'il y a des hadiths aussi qui disent que yani, le prophète a fait beaucoup de doigts, mais il n'a pas commencé par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, ni par la prière sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais je dis, yani, ça rentre dans les adab, et c'est mieux, inshallah ta'ala, de commencer comme ça, hein, et ça donne plus yani, yani, comment on dit ça, d'espoir pour que le doua ou la doua soit exaucée bi-idhnillahi ta'ala. Pour Wesmo, pour l'Aïd, non, pour le mouton de l'Aïd, pour le mouton, si c'est une chèvre, non, ou un bouc, non, il faudrait qu'il ait un nom, sans aucune divergence, inshallah ta'ala, entre les savants. Maintenant, si c'est un mouton, ou bien sûr une femelle, c'est-à-dire une brebis, certains savants, disons la plupart disent, si c'est 6 mois, c'est yani le minimum, il faut que l'animal ait 6 mois, minimum. Mais malgré cela, je dis, d'autres savants qui sont des muhakkikoun ont dit que, même s'ils ne sont pas nombreux savants, ont dit que l'avis le plus juste, c'est que le mouton doit avoir 1 an. Non, pas 6 mois. 1 an. Donc, moi je dis, Allah subhanahu wa ta'ala, pour sortir des divergences, il vaut mieux choisir un mouton qui a 1 an. Mais si maintenant le mouton, par exemple, a déjà été acheté et qu'il a 6 mois, qu'il n'a pas encore 1 an, qu'il a 7, 8 mois, 9 mois, etc., soit on le garde, c'est trop tard. Non. On prend de l'avis qui dit que c'est permis 6 mois. Sinon, si quelqu'un peut et a les moyens pour sortir des divergences, il choisit le mouton qui a 1 an et plus, bi'idhnillah subhanahu wa ta'ala. Reste à dire, est-ce que c'est obligé que ce soit un mouton? Ou c'est permis une femelle? C'est permis la femelle. Hein? C'est permis la femelle, bi'idhnillah ta'ala. Si quelqu'un a choisi une brebis, hein? Il n'a pas, yani, on ne peut pas dire que yani, ce n'est pas valable. Tous les savants sont unanimes pour dire que yani, ce qu'il a fait ici est valable. Parce que le mouton est préférable. Le mouton est préférable à la femelle, c'est tout. Donc il y a une différence quand on dit préférable, il y a une différence quand on dit c'est pas valable. Non. Pour les gens qui ont dit, les frères qui ont dit que ils sont dispersés, etc., est-ce qu'on peut faire une association? Je dis, cela dépend, je ne sais pas chez vous en France, quand on veut faire une association, comment ça se passe? C'est-à-dire, si on peut la faire, sans y contredire quelque chose du Coran ou de la Sunna. Je ne sais pas comment ça se passe chez vous. Si c'est seulement des papiers qu'on remplit et qu'il n'y a rien qui contredise le Coran et la Sunna, alors dans ce cas, c'est permis de faire une association, car c'est disons, la seule, disons, issue qui permet alors d'avoir une mosquée. Et avoir une mosquée pour se regrouper. Nous, les salafs, c'est très important. Très important. Naam. Pour ça qu'il faut voir maintenant, quand on veut faire une association, c'est quoi, yani, les règles qu'il y a, etc. Pour la personne, naam, la cinquième question, où la personne a dit que la muqabala, etc., ce qu'elle peut la faire seulement avec yani, une soeur, etc. Yani, en public, je dis, naam. Je conseille à cette personne, si elle veut faire une muqabala en public, je lui conseille de ne pas faire la muqabala, mais de parler avec la soeur du frère, de lui dire par exemple qu'elle soit avec lui dans tel endroit, nam, tel endroit par exemple, et que elle, nam, elle va passer devant elle et son frère, nam, elle va passer devant elle et son frère, sans s'arrêter pour aller vers eux, discuter, etc. Mais juste, elle va dire, je vais passer à telle heure, par exemple à 15 heures, devant tel endroit, telle rue, tel magasin. Mets-toi avec ton frère devant la porte. Et moi, inchallah, je vais passer devant vous. Naam, vous saluerez bien sûr. Salam alaikum, je passe. Comme ça, lui, il me verra et moi, je le vois. Sans se parler, sans rien. Et ensuite, déjà, j'ai une idée sur le frère et lui, il a une idée sur moi. Et on va voir. Si apparemment il y a affinité, on va faire muqabala. S'il n'y a pas, ça s'arrête là. Non, c'est pas la peine d'aller plus loin. Non. Reste la dernière question pour l'assurance. Pour l'assurance, pour dire la vérité, je n'ai pas compris. Mais je dis, ça dépend de. C'est quelle assurance ici? Si c'est l'assurance qui est permise. Non. Ce qu'on appelle ta'awuniya. Ta'awuniya, c'est-à-dire d'aide. Des fois, on cotise dans une chose, on cotise pour aider. Si quelqu'un tombe malade, on l'aide. Si quelqu'un a besoin de médicaments, on l'aide. Si quelqu'un va aller à la retraite, on l'aide. Je cotise par exemple une fois par an ou là. Ça, c'est permis. Ce qui n'est pas permis, c'est assurer, sans savoir ce qui va se passer. J'assure ma voiture contre l'accident. J'assure ma maison contre le feu. Je m'assure moi-même contre ma mort. Ce sont ces assurances-là qui sont interdites. Donc, il faut voir maintenant quel genre d'assurance a contracté son père. C'est une assurance ta'awuniya qui aide. Une assurance d'État, l'État qui aide. Et il demande à la personne de cotiser, par exemple, une fois par mois ou là, une fois par an ou là. Comme ça, si la personne tombe malade, par exemple, elle va aller à l'hôpital, elle va faire, par exemple, une opération gratuitement. Et elle veut acheter des médicaments, elle les achète gratuitement. Et comme ça c'est permis. Si c'est l'autre assurance dont je viens de parler, à vie, pour la voiture, pour les maisons, pour toutes celles-là ne sont pas permises. Et bien sûr, quand je dis la voiture, c'est pas permis, mais c'est darura. C'est pas permis, mais c'est quoi? C'est darura. C'est-à-dire, quand je vais faire l'assurance de la voiture, je vais choisir la base. Je n'assure rien. Ni le pare-brise, ni le vol, ni tout risque, ni rien. J'assure seulement pour que il me donne une feuille. Comment ça s'appelle? Comme ça, si je rencontre le policier, je lui montre que j'ai l'assurance. Si jamais comment qu'on dit, en arabe, jamais j'écrase quelqu'un ou là, au moins j'ai l'assurance. Naam. Très bien, cher.
Ah, donc le bannir, mais est-ce qu'il est dans la room? Est-ce que ce pseudo se trouve dans la room Emina Sarah? Non, mes chers, au niveau de par rapport à l'heure actuelle, non, j'ai un doute. Est-ce qu'il est une heure en plus chez vous, là, une heure en moins? Actuellement, est-ce qu'il est minuit à quart ou la 22h à quart? Non, je le vois pas dans la room. Ah, mais il est plus là. Rien, Inch'Allah. Ah, 22h15. Ok, c'est bien ce que je me disais. Rien, Inch'Allah. Donc, on passe aux questions suivantes, Inch'Allah. Salam alaikum. Je voulais vous demander, est-ce que vous comptiez reprendre les cours du livre Riyad Salihin? Car je suivais les cours et je trouve que c'est un livre très bénéfique. Et pouvez-vous faire une nasiha sur...
Afoun, Inch'Allah ta'ala, si je t'ai donné le raid, hein, je voulais juste dire que donne-moi, Inch'Allah ta'ala, une minute ou deux, ensuite on reprend le cours. Inch'Allah, quand je serai prêt, je te dirai, Inch'Allah ta'ala. Salam alaikum.
Je demande aux frères et sœurs, dont leur question est passée, de baisser la main, Inch'Allah. Barakallahu fikoum.
تفضل إن شاء الله.
Donc je relis la question, Inch'Allah. Par contre, la sœur qui a posé la question sur les doigts, elle demandait si votre réponse est valable aussi lorsque l'on fait des doigts en l'absence des frères et de façon générale pour la Ummah. Barakallahu fikoum. C'est la question sur les doigts dont vous avez répondu tout à l'heure. Tfadal cher.
Je reprends le micro pour dire, Inch'Allah ta'ala, naam, c'est valable. C'est valable en général, Inch'Allah ta'ala. Tfadlak.
Salam alaikum, je voulais vous demander, est-ce que vous comptiez reprendre les cours du livre Riyad Salihin, car je suivais les cours et je trouve que c'est un livre très bénéfique. Et pouvez-vous faire une nasiha sur le fait d'étudier le Minhaj Salafi, car je vois que beaucoup de monde néglige cela, surtout le Hajar des Mubtadi'a, comme Mohamed Hassan, Abu Ishaq, El-Houaini, Yaqub et autres, j'ai cité les noms, car le besoin s'en fait ressentir, s'en fait sentir. Barakallahu fikoum. Question suivante. Je voudrais votre avis à propos d'un frère converti qui vit en France et qui envisage de faire la hijra. Mais ses parents, qui sont mécréants, vivent en France, vont sûrement finir en maison de retraite si le frère quitte la France, car leurs autres enfants ne sont pas musulmans non plus et ne s'occuperont certainement pas comme il faut quand ils seront vieux. Est-il mieux qu'il reste en France afin de s'occuper plus tard de ses parents ou faire quand même la hijra en laissant ses parents en France? Question suivante. Salam alaykoum wa rahmatullahi wa barakatuh, cher. Alhamdulillah pour la reprise des cours. Qu'Allah vous récompense. On est vraiment heureux de vous retrouver. Ma question. Vous m'aviez dit qu'il n'était pas permis de faire des dons à des organismes détenus par des gens de la bid'a. Pouvez-vous me confirmer s'il y a des avis ou s'il est strictement interdit par Barakallahu fikoum cher. Qu'Allah vous préserve et passez le salam chez vous, Inch'Allah. C'est de la part de Sana cher. Question suivante. Salam alaykoum cher. Est-il interdit de plier ses manches en dehors de la prière? Si la personne ne fait rien, qu'il l'inciterait à plier ses manches. Donnez-nous les adillah, barakallahu fikoum, qu'Allah vous en récompense grandement. Non, cher, et les autres, ils n'ont pas répondu, donc c'est pour ça que vous n'avez que quatre questions pour l'instant. Tfadal, cher.
Alaykoum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Pour Riyad Salihin, naam, c'est un livre, inshallah ta'ala, qui contient yani, des fawaïd vraiment désintéressés. Naam, c'est un livre qui est, mashallah, c'est un livre que, yani, ça fait longtemps que j'ai commencé, et que, inshallah ta'ala, dès que je commence les cours, si c'est samedi prochain, Allahu alam, on commencera par Riyad Salihin. Car c'est un livre, naam, que, naam, je n'ai pas encore, yani, c'est pas un livre que j'ai délaissé, mais c'est un livre qui, yani, avec lequel j'ai commencé. Au contraire, quand je commence un livre, jamais je m'arrête. Alhamdoulilah, c'est l'une des meilleures choses que Allah Ta'ala m'a donné. C'est que quand je commence un livre, il faut que je le termine, bidna ta'ala, même si c'est un an ou deux ans. fais pas comme beaucoup de frères, commencer un livre 15 jours, ensuite il arrête. Un autre livre 15 jours et il arrête, et comme ça. Ça, c'est une très très mauvaise méthodologie. Inch'Allah ta'ala, si Allah subhanahu wa ta'ala aide, le prochain cours, Inch'Allah ta'ala, justement, sera un nouveau hadith de Riyad Salihin. Et peut-être, Inch'Allah ta'ala, ce sera samedi. Peut-être que ce sera le prochain cours, peut-être que ce sera samedi. Moi, dans ma tête, j'avais dans ma tête que c'est la première semaine du mois prochain. Première semaine de novembre. Et comme je suis rentré aujourd'hui sur Internet, je me suis connecté sur le Paltalk avec le Fawaid, pas avec mon pseudo. Et comme on m'a demandé comment aller chercher la vie, j'ai dit c'est moi. Ensuite, on m'a poussé à répondre à quelques questions. Ensuite, j'ai dit maintenant pourquoi donc je vais pas le répondre le soir, c'est-à-dire aujourd'hui. Et c'est comme ça que Allah subhanahu wa ta'ala a voulu que je fasse ces questions-réponses aujourd'hui. Maintenant, je me dis aussi pourquoi donc je commence pas samedi le cours. Allahu alam. Donc dans ma tête, c'est samedi, mais Allahu alam. Allahu alam, Allahu alam trois fois. Mais Inch'Allah ta'ala, peut-être que le prochain cours de Riyad Salihin sera samedi, si Allah subhanahu wa ta'ala le veut. Tayyib. Ensuite, le frère dit, il y a des cours sur le minhaj, etc. Samedi, c'est comme aujourd'hui. Parce que nous, l'Isha ici, ça se termine l'Isha vers 20h, ça se termine l'Isha chez nous. C'est-à-dire 21h chez vous. Donc, le temps que je mange, etc., il faut dire 21h30 à peu près. Wallahu ta'ala alam. Non. Donc je disais pour le minhaj. Non, pour le minhaj. Le minhaj, il faut que vous sachiez que ce n'est pas une chose, yani, qu'on peut faire un cours comme ça et la personne devient, par exemple, rentre dans le minhaj. Le minhaj, pour quelqu'un qui n'est pas dans le minhaj, c'est des cours et des cours. Peut-être une année, deux, trois, la personne est en train d'entendre et d'enlever les équivoques et les choubourettes qu'elle a dans la tête. Non. Chaque fois qu'elle entend quelque chose, elle se dit, ah bon, moi je croyais que c'était une telle et telle chose, et comme ça. Elle commence à effacer ce qu'elle a de faux dans son cœur et dans sa tête. C'est pour ça que ça demande, yani, des années, des fois, pour que la personne vienne dans le minhaj. C'est pour ça, par exemple, cela dépend de la personne, yani, à quel point elle est noyée dans le faux. Il y a des gens qui ont seulement les pieds dans le faux. On a d'autres qui ont jusqu'aux genoux, d'autres jusqu'aux hanches et d'autres jusqu'au cou. Et d'autres qui sont noyés et on ne les voit pas du tout. Ils sont vraiment de l'autre côté. Donc, toutes les personnes ne sont pas dans le même niveau de l'éloignement du minhaj. Cela dépend des personnes. C'est pour ça qu'il y a une personne qui, peut-être la première fois de ta vie, tu vas lui parler, elle va rentrer dans le minhaj. La première fois de ta vie. Elle va t'entendre parler, tu pars du minhaj, là, elle rentre. Et une autre personne, tu vas rester avec elle une année ou bien deux années pour qu'elle accepte. Et pour les parents, la personne qui a dit, mes parents, si jamais je fais hijra, ils vont se trouver dans ce qu'il a dit lui, comment il a dit ça, dans un centre de vieillesse, quelque chose comme ça. Je lui dis, si tu es sûr que en restant en France, tu n'es pas dans la fitna et que tu te retiens et te contiens, mashallah, et que tu es sûr de toi que tu ne vas pas tomber dans la fitna. Dans ce cas, inshallah ta'ala, tu peux rester à cause de tes parents si tu sais qu'ils vont finir comme ça très mal. Mais il faut être sûr aussi qu'ils vont finir dans cette chose. Donc il y a deux conditions. Être sûr que leur fin, c'est quoi? C'est yani, le centre de vieillesse. Et la deuxième chose, être sûr que moi aussi, je ne vais pas couler. Car c'est interdit en islam que je coule à cause d'une autre personne, même si c'est mon père ou ma mère. Car, yom al-qiyama, c'est nafsi. Je sauve d'abord ma peau, ensuite, je vais penser à mon père et ma mère. Je sauve d'abord qui? Ma peau. Donc, il faut voir, toi, mon frère, si vraiment, Yanni, situé yani, loin des fitna. Naam. Pour les dons aux gens de la bida, je dis, je redis. Naam. C'est interdit de donner naam, des dons aux gens de la bida. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils vont les utiliser à des fins, yani de quoi? Qui marchent avec leur bida. Si maintenant un moubtadi va mourir de faim, non, je le prends au restaurant et je le fais manger parce qu'il va mourir de faim. Non, même si c'est un takfiri qui va mourir de faim. Voilà. Mais maintenant, si je lui donne l'argent pour que il aille acheter des livres de la bida, il est distribué ou des cassettes de la bida, il est distribué, etc. Dans ce cas, c'est interdit. C'est pour ça qu'on ne doit pas donner de dons aux gens de la bida. Quand je dis les gens de la bida, surtout les gens qui font la da'wa à la bida. Je ne parle pas des gens de la masse. Yani comme les gens qu'il y a dans la rue qui sont pleins de bida. Pas de ceux-là. Et les gens qui sont connus, qui font la da'wa à leur bida. La da'wa au takfir, la da'wa au chiisme, la da'wa à ceci. Moi, je lui donne mon argent. Celui-là, si je lui donne, c'est que vraiment, yani, donc je veux l'aider. Car je sais ce qu'il va faire de cet argent. Naam. Enfin, pour plier ses hanches hors de la prière, hein, ce n'est pas interdit. Il n'y a aucune chose dans le dîn qui interdise à la personne de plier, c'est quoi? Plier ses manches si elle n'est pas dans la prière. Ce qui est interdit, et disons tout juste makruh, pas haram, c'est de les plier quand on est dans la salat. Maintenant, quand on a terminé la salat, ce n'est pas interdit de plier ses hanches, de plier ses manches. Naam. Voilà, inshallah, pour aujourd'hui. Si Allah subhanahu wa ta'ala le veut, on va se rencontrer samedi, bi'idhnillahi azza wa jal. Si on ne se rencontre pas samedi, on aura, inshallah, yani d'autres occasions de se rencontrer, bi'idhnillahi subhanahu azza wa jal. Naam. Tfadl al-muslim.
Madame Cheikh Hayakoum Allah, juste une précision sur une question qui vous a été posée tout à l'heure sur les fiançailles et le mariage. Donc la sœur a dit, c'est au sujet donc de la question sur les fiançailles, le prétendant a demandé au tuteur de la sœur s'il acceptait de lui donner sa main, et le tuteur a répondu qu'il lui donnait sa main en vue du mariage. Ah, donc il a ajouté en vue du mariage. Et pour lui, il donnait sa main pour des fiançailles. Car pour lui, le vrai mariage est dans 2 ans. Elle dit donc le cheikh va s'en souvenir, Inch'Allah, c'est une sœur qui se demande si elle est mariée ou pas. Voilà, barakallahu fekoum. Le cheikh avait dit que normalement, ils sont mariés si le tuteur a accepté. Mais il a ajouté qu'il ne savait pas ce qui s'était dit exactement. C'est pourquoi il faut que je précise. Voilà. Et cheikh, une autre chose, Inch'Allah, pour le cours de samedi. Inch'Allah, si vous prenez donc la décision de commencer samedi, faites passer un message sur le site, si c'est possible. Bi'inillah. Barakallahu fikoum, cher, et qu'Allah vous préserve. Tfadal, cher.
Barakallahu fik, oh, inshallah ta'ala, je mettrai ça sur le site dans le cas où je ferai, inshallah ta'ala. Je dis, maintenant si le tuteur, même si le tuteur a dit, en vue, ça veut dire je la marie pas maintenant. Ça veut dire que, inshallah, dans 2 ans, je vais la marier. Dans ce cas, le tuteur, même, n'a pas marié, il n'a pas encore marié. Vous comprenez? Si le tuteur la marie, il faut qu'il dise, voilà, je vous donne ma fille maintenant. Maintenant, dans le cas où il dit, non, c'est pour 2 années, voilà, dans 2 années sera le mariage, maintenant c'est juste les fiançailles, etc. Il n'y a pas de fiançailles en islam. Non, en islam, il n'y a pas ce qu'appellent les autres les fiançailles. Il n'y a pas. Il y a seulement, non, je donne ou je donne pas. Il n'y a pas, ils se connaissent avant, ils sortent et je ne sais pas ce qu'ils font, ils se téléphonent et après 2 ou 3 ans, ils se marient. Il n'y a pas ça. Il y a. Elle est, c'est une étrangère, sauf s'ils font le aqd. S'ils font le aqd shar'i, ils ne sont plus des étrangers l'un pour l'autre. Donc il faut voir avec la niya, nam, du tuteur, qu'est-ce qu'il voulait par là. S'il voulait dire que c'est juste les fiançailles et, inshallah, dans 2 ans, on va faire le mariage et on va faire l'aqd, etc. Ça veut dire que ça, c'est pas un mariage. Pour que ce soit un mariage, il faut qu'il donne, qu'il dise ça avec dans le cœur que, place, elle est mariée. والله سبحانه وتعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.